En marche vers le ciel. Bienvenue à tous pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu en mode conversation entre frères. Le but n'est pas d'essayer de tout dire sur un passage donné, mais bien de réfléchir à l'enseignement biblique afin de rapprocher nos cœurs toujours plus près de la personne du Seigneur. Bonjour Étienne, bonjour Marco.
Bonjour Hervé.
Bonjour Hervé.
C'est un plaisir de vous avoir ici à cette table. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'expression « comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu ». Où trouve-t-on cette expression et dans quel contexte ?
Bien, nous allons ouvrir la parole en la première épître de Pierre, au chapitre 4, et nous lirons les versets 10 et 11. Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres, comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen.
Un passage très dense, très riche, comme tous les passages de la parole de Dieu, puisqu'elle est vivante et opérante. Qu'est-ce que nous allons dégager de ce verset ? Peut-être pas ce seul verset 10, mais il y a un contexte. On pourrait dire à partir du verset 7 même, et surtout il y a aussi le verset 11. Alors, dans ce verset 10, il y a au moins trois aspects que nous pourrons aborder. C'est que chacun a reçu un don de grâce, ensuite qu'il faut l'employer, et d'employer comment, de quelle manière, et bien comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Est-ce qu'il y a des pensées à émettre sur ce contexte ?
Oui, chacun a reçu un don de grâce. C'est un point important parce que parfois on peut penser que l'un ou l'autre pourrait dire « ben moi je n'ai pas reçu quelque chose ». C'est parfois cette réflexion que l'on entend. Or la parole de Dieu nous dit que chacun a reçu un don de grâce. Par exemple dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 6, or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, et ensuite sont énumérés quelques dons de grâce particuliers. Mais on voit immédiatement que, ayant donc des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, et chacun qui appartient au Seigneur Jésus sait que la grâce lui a été donnée.
Ici, il est parlé de dons différents. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est aussi parlé de différents dons, 1 Corinthiens 12, différents dons, mais un seul esprit. Et ce sont les dons de grâce, sont des dons spirituels, des dons que nous avons reçus lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, afin de travailler sous la direction du Saint-Esprit.
Oui, c'est cette grâce que nous devons dispenser, que nous devons utiliser les uns pour les autres, il faut d'abord que nous-mêmes, nous réalisions que nous avons reçu cette grâce de la part de Dieu. Parce que comment manifester cette grâce si nous-mêmes nous sommes pas conscients? Et la grâce de Dieu, elle est infinie. Et c'est vrai que dans les trois passages où on parle du corps de Christ, on a évoqué Romains 12, on a évoqué 1 Corinthiens 12, il y a aussi Éphésiens 4, on voit toute l'importance que chacun a dans ce corps du Christ. Chacun a une place. Et on peut lire aussi un verset dans Éphésiens 4, au verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Nous avons donc tous reçu cette grâce. Et maintenant, c'est un privilège pour nous aussi à communiquer cette grâce autour de nous.
Très important de savoir que la grâce, on en parlera plus tard probablement, la grâce variée de Dieu, D'abord, la grâce de Dieu nous a sauvés de nos péchés. Elle nous a sauvés de la perdition. Et ensuite, nous avons reçu tellement plus encore. Tellement plus. Et si nous avons reçu une mission à accomplir par l'Esprit, alors c'est aussi la grâce de Dieu qui nous a donné l'Esprit, qui a fait son habitation en nous, pour nous rendre aptes à fonctionner dans le corps. C'est aussi la grâce, il faut s'en rendre compte. Et que le fonctionnement, la tâche que nous avons chacun, chacune, c'est par grâce. Et donc, je n'ai aucun mérite à faire prévaloir d'être utile dans le corps.
Oui, et à l'opposé, justement, non seulement il ne faut pas se prévaloir de quelque chose en disant « voilà, j'ai reçu tel don de grâce », d'un autre sens, comme on l'a déjà dit une fois, il faut que chacun soit conscient qu'il en a un, qu'il en possède un, et qu'il doit donc l'exercer.
Et donc, éventuellement, le trouver. Oui. Quel est le don de grâce que j'ai ?
Alors, c'est très important, ça. Si on relit 1 Pierre 4, verset 10, « Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce. » Reçu, c'est la grâce. Donc, je n'ai rien fait de particulier pour recevoir, c'est le don de Dieu. Et je n'ai pas choisi non plus. Il n'est pas dit « selon que chacun de vous a choisi ce qu'il avait envie de faire ». Puisque dans les autres passages où il parlait des dons, il est bien dit que c'est le Seigneur qui qualifie, c'est le Seigneur qui choisit qui fait quoi, et c'est le Seigneur qui place les membres là où il les veut. Et c'est très important, si nous avons ce sens profond de la grâce et d'avoir reçu, nous sommes reconnaissants. Et nous sommes alors notre place. Nous ne sommes pas envieux de quoi que ce soit d'autre que ce que le Seigneur veut ou a voulu nous donner.
Et s'il nous a donné, et puisqu'il nous a, puisque le verset dit « suivant que chacun », on peut remplacer « puisque chacun de vous a reçu un don de grâce », eh bien, c'est un don que nous devons exercer. C'est notre responsabilité et en même temps, c'est un privilège. Maintenant, comme tu disais, c'est Dieu qui nous donne ce don de grâce. Et dans beaucoup de choses, on voit toujours le côté de Dieu, le côté de l'homme, le côté de l'homme. On peut le voir aussi le tout dernier verset de 1 Corinthiens 12, verset 13. « Or, désirez avec ardeur des dons de grâce plus grands. » Il y a ce que Dieu nous donne, et puis il y a ce que nous désirons aussi avoir, que Dieu peut nous donner.
Dans la réflexion qu'on avait en réfléchissant à ce sujet, il y a la différence entre le don de grâce que l'on reçoit, ce que Dieu nous donne pour le servir, et ce qu'on est en soi-même, les aptitudes que l'on a, la capacité que l'on a naturellement. Alors il y a des âmes qui peuvent avoir de grandes capacités dans différents domaines. Ce n'est pas toujours dans ce domaine-là que le don de grâce s'exerce. Et c'est quelquefois un exercice parfois peut-être difficile de penser « ben je sais faire telle chose, je sais faire telle chose, donc je vais m'occuper uniquement de cela ». Alors que le Seigneur désire peut-être que nous exercions un service, un don de grâce autre, dans une autre branche. Et il va nous donner ce qu'il faut pour le réaliser, même si nous pensons que nous sommes incapables naturellement de pouvoir exercer ce don de grâce. Donc là, ce que nous recevons, ben, il faut justement le connaître.
C'est vrai qu'on peut rapidement faire une différence, une distinction entre une compétence naturelle que nous obtenons à la naissance physique même, hein, qui aussi, grâce de la part de Dieu, d'avoir tellement de compétences et d'aptitudes, mais ce n'est pas le don de grâce spirituelle que nous recevons lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre cœur et que nous recevons le Saint-Esprit. Et parfois, Dieu peut utiliser des compétences naturelles pour les mettre au service du don spirituel pour que ce soit très efficace. Ou parfois, il faut se dire, cette compétence naturelle que j'aimais tellement, je n'en ai pas besoin pour servir le Seigneur. Ça, c'est le... Chacun doit être dépendant du Seigneur pour comprendre son chemin et sa fonction. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que nous ne sommes pas uniquement sauvés de nos péchés et laissés chacun séparé les uns des autres, chacun faisant un travail qui lui est propre, à tout va. Mais dans la grâce, Et dans la sagesse divine, le Seigneur nous sauve et il fait de nous des membres complémentaires pour un but commun, pour un travail commun, des fonctions différentes, mais un but commun qui est de glorifier le Seigneur sur la terre, de lui donner gloire à lui dans notre façon de fonctionner, de marcher, de servir.
C'est le verset 11, hein, « Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. »
Exactement. Éphésiens 4 nous dit que nous avons reçu des dons en vue du perfectionnement des saints, de l'édification du corps tout entier en amour. Et ici, il est dit « En vue de la gloire de Dieu. » Parce que Dieu sera glorifié nécessairement si le corps fonctionne comme il l'a prévu.
Donc c'est un don utile.
Utile
pour le corps, pour son édification. Donc son édification, c'est la constitution, la grandeur, la croissance de ce corps. Et donc il y a cette pensée aussi, pas uniquement, je vais dire, dans une pensée où il n'y a que le corps qui reçoit ce don de grâce. Le premier don de grâce, c'est aussi d'être évangéliste ou de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est donc d'amener des âmes aussi à la personne du Seigneur Jésus pour compléter justement ce corps de Christ.
On pourrait peut-être voir l'accroissement du corps d'abord en nombre, en amenant des âmes qui font maintenant partie intégrante, qui sont incorporées dans l'Église, mais aussi l'accroissement spirituel de ceux qui y sont déjà. Et aspect très important, c'est que chacun, puisque chacun de nous avons reçu quelques dons de grâce, il faut l'employer les uns pour les autres. Et je n'ai pas reçu un don de grâce pour moi-même. Et ça, c'est un aspect très important.
Oui, et en fait, c'est quoi tout simplement utiliser un don de grâce? On pourrait résumer par faire du bien aux autres. C'est ça, c'est faire du bien.
Faire du bien dans le sens où nous les approchons du Seigneur.
Du Seigneur, voilà.
Mm-hmm. Il ne s'agit pas simplement de distribuer de la soupe
ouais.
et de ne rien dire.
Mais il y a une différence entre distribuer la soupe, voilà, comme ça, comme beaucoup de gens font dans le monde, et c'est une bonne chose, et la distribuer parce que le Seigneur nous l'a dit.
Exactement.
Et je pense aussi qu'on fait toujours fort la différence entre un don naturel, un talent naturel et un don spirituel, mais ne peut-on pas dire aussi que un talent naturel, un don naturel, s'il est utilisé pour Dieu, ça devient un don spirituel quelque part. Mais comme on a dit, c'est pas forcément celui-là que Dieu va utiliser, mais on peut le voir aussi avec avec l'apôtre Paul quand on voit le don qu'il avait, mais c'était contre l'assemblée, mais Dieu va utiliser ce même don pour l'assemblée. Par contre, si on cherche un exemple dans l'Ancien Testament, on voit Moïse, qui était un homme éloquent en Égypte, et quand Dieu veut l'utiliser, il dit qu'il ne sait plus parler, quoi. Mais en fait, il faut vraiment se dire, chacun a reçu un don, au moins un don, et l'important, c'est que demander au Seigneur qu'il montre quel est ce don quand on ne le sait pas. Et ça peut partir au départ, d'un talent naturel, ça on le distingue plus facilement. Mais si on le met au service du Seigneur, au service de l'Assemblée, eh bien voilà, c'est déjà un très bon début.
Il y a aussi cette double qui est exprimée dans la parole, je n'ai pas les passages en mémoire, mais nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire qu'il ne faut pas se penser indispensable dans le service que l'on fait. Mais un autre verset vient nous dire que nous sommes des serviteurs utiles au maître.
Ouais.
Donc là, il faut vraiment travailler aussi. Donc il y a les deux côtés. On n'est pas indispensable. Le Seigneur peut utiliser qui il veut, quand il veut et où il veut. Mais aussi, nous devons être disponibles. On parlait de Moïse ici qui tout d'un coup dit « mais je ne sais pas parler ». Ben, Dieu va lui dire, l'Éternel va lui dire « écoute, donc je vais prendre ton frère, alors c'est lui qui va parler à ta place ». Donc, il faut être disponible et il faut avoir cette foi de dire, si tu me donnes ce service, j'aurai aussi ce qu'il faut pour l'exercer convenablement.
Il faut être dépendant. Et c'est, ça, c'est valable tant pour les compétences naturelles que pour le don spirituel. Parce que nous avons vite fait de devenir notre propre chef et de chercher notre propre intérêt ou notre propre gloire ou quelques gains que ce soit immédiat. Mais si nous sommes dépendants du Seigneur, si nous avons cet amour pour le Seigneur, et si nous aimons le Seigneur, nous aimerons aussi les âmes. Puisque le Seigneur aime les âmes, de tous les racheter, puisqu'il les a aimés au point de donner sa vie sur la croix, mais il aime aussi tout le monde. Et le don naturel, le don spirituel, c'est par l'esprit. L'esprit est un esprit d'amour, qui verse l'amour dans notre cœur. Et donc, voilà, si donc chacun a reçu un don spirituel, il faut l'employer pour les autres, pour le bien des autres. C'est tellement important que les âmes soient sauvées. Et si nous les aimons, alors, même les incrédules, même ceux qui nous font souffrir, comme le Seigneur, à l'image du Seigneur Jésus, eh bien, alors nous allons exercer notre don. Et ce ne sont pas forcément des choses spectaculaires, ou grandioses, ou qui demandent beaucoup de préparation. Le cœur doit être préparé. Et puis, quelques mots. Un petit message, une invitation. D'ailleurs, dans le contexte qui est dans les versets précédents, il est parlé... Il est dit, verset 8, « Avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent. » Ensuite, au verset 9, « Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. » L'hospitalité, c'est donner. Hein, et c'est sortir de sa zone de confort. C'est quand même très important. C'est une preuve que la personne qui est hospitalière, c'est la preuve qu'elle est prête à changer ses habitudes pour donner quelque chose de bon à quelqu'un d'autre. Et quand on est hospitalier, qu'on invite quelqu'un à la maison, c'est pas seulement pour lui donner un bon repas, ça peut être le cas, pour le nourrir, matériellement, physiquement, mais aussi pour l'échange spirituel, pour la communion. Et c'est très important, parce que parfois on a peut-être l'impression que le don spirituel doit être exercé uniquement à la réunion de l'assemblée. Non, autrement il y aurait que les frères et encore que certains frères qui vont l'exercer et pas les sœurs. Or, sachant que chacun de vous, frères comme sœurs, jeunes comme moins jeunes, et donc c'est dans ce contexte par exemple de l'hospitalité et des contacts entre nous en dehors des réunions que nous pouvons également et que nous devons exercer ces dons spirituels pour l'accroissement du corps.
Mais on a dans la parole un autre exemple d'une sœur qui avait un don particulier, c'était Dorcas. Elle savait coudre et elle cousait des habits pour tout le monde. Et il est dit qu'elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Et en montrant les robes, les femmes montraient les robes et les vêtements, toutes les choses que Dorcas avait faites. Voilà, c'est un don. Et non seulement il faut avoir le don, mais il faut prendre le temps parce que ça prend du temps. Puis quand Dieu nous donne un don, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, qu'il faut se tourner les pouces. Parfois, il faut travailler ce don. Il faut prendre du temps pour que ce don puisse être efficace.
Il faut investir du temps, de l'énergie, parfois de l'argent. Mais je pense qu'on pourrait dire qu'il faut surtout s'investir soi-même. Nous recevons un don de grâce et nous devenons le don de Dieu aux autres. C'est d'ailleurs la pensée qui est donnée en Éphésiens 4, il n'est pas dit Dieu a donné le don d'évangéliste, le don de pasteur, il est dit Dieu a donné les uns comme évangélistes, les autres comme ceci, comme cela. C'est la personne même qui devient le don. Et donc, en tant qu'objet de la grâce de Dieu, ayant reçu toutes ces richesses spirituelles et cet Esprit Saint, eh bien, je deviens moi-même un don à l'Assemblée. Et pas seulement à l'Assemblée, mais peut-être aussi aux voisins à qui je vais annoncer l'Évangile.
1 Jean 3 nous dit au verset 16, « Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. » Voilà jusqu'où ça peut aller. Il y a cet adjectif, l'amour fervent. Alors oui, moi, je peux dire très bien, oui, j'aime les frères et sœurs, mais est-ce que je les aime d'un amour fervent? Et un amour fervent, ça se montre. C'est pas oui, je les aime fort. un amour fervent, ça se montre, et ça veut dire qu'on se met totalement de côté. Et là, c'est déjà plus difficile. Hein.
C'est cet élan qui nous amène vers les autres, spontané. On pourrait dire que c'est presque l'inverse de la loi du moindre effort.
Ah oui, tout à fait.
C'est un mode de vie.
Et puis, il y a la suite du verset, « Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Mais si on n'arrive pas à faire ça, comment peut-on dispenser la grâce de Dieu? Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est quelque part passer au-dessus de nos péchés. La grâce, on le dit souvent, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Enfin, je veux dire, on ne la mérite pas, la grâce. Eh bien, là aussi, il faut savoir aussi couvrir une multitude de péchés, c'est-à-dire que, voilà, déjà ne pas les divulguer quand un frère ou une sœur a fait un péché. Ça ne veut pas dire que ça ne nous touche pas, mais il faut des fois passer au-dessus de certaines choses, surtout en plus si ce sont des péchés qui ont été commis envers nous.
Ah, on est souvent beaucoup plus sensible à ceux-là.
Ah, ouais.
Mais imaginez, parce que la parole ne nous parle pas pour rien, si nous ne couvrons pas une multitude de péchés, mais si nous sommes prompts à divulguer tous les défauts des autres. Ou si nous murmurons, puisqu'il est dit en verset 9, étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Et qu'après, j'essaie d'accomplir un travail spirituel. C'est pas possible. C'est pas possible. Je détruis par le murmure, par la médisance peut-être, ou alors, c'est pas possible. Il n'est pas possible d'édifier le corps de Christ et d'édifier et d'employer notre don spirituel les uns pour les autres si nous sommes dans ce mode de murmure et de critique constant.
Puis, on parlait de l'amour, qui est le verset précédent, mais on remonte encore un tout petit peu, ce qui est très important aussi. Soyez donc sobres et veillez pour prier.
Verset 7.
On a besoin beaucoup de prières lorsqu'on veut administrer ses dons comme Dieu le désire. Priez pour nous d'abord, que nous soyons dans une bonne disposition d'esprit, pour que Dieu nous donne cet amour qui est nécessaire, et priez pour la personne envers qui aussi on rend un service, qu'on veut rapprocher du Seigneur. Combien c'est important, la prière. Là, de nouveau, l'exemple suprême, le Seigneur Jésus qui se levait longtemps le matin avant le matin pour prier, qui a passé une nuit à prier. C'est très important aussi, ce fait de prier pour ces dons de grâce.
Ça montre justement cette communion, cette relation qui doit être continue lorsqu'on doit exercer son don de grâce. Il faut qu'il y ait cette relation avec le Seigneur. On lui demande, il nous répond. Et on peut lui demander toutes sortes de choses, tout simplement de savoir où faut-il l'exercer, comment faut-il l'exercer, envers qui faut-il l'exercer. Il n'y a pas de règles établies en disant, ben, dans tel service, voilà comment on doit fonctionner. Chacun est en relation avec le Seigneur. Et on arrive tout doucement, justement, dans l'expression qui suit, alors, employez-le les uns pour les autres comme bon dispensateur.
Encore une pensée sur la prière. C'est vrai que si nous aimions nos frères et sœurs ou les âmes un peu plus, on prierait plus pour eux. Et lorsqu'on a une petite frustration qui arrive ou quelque chose qui nous déplaît, le réflexe serait de prier normalement. Parce que je pense que si nous prions pour quelqu'un véritablement, sincèrement devant le Seigneur, on le critiquera moins. On n'enverra pas vite un WhatsApp ou un message à quelqu'un d'autre si on a prié pour cette personne.
Tout à fait.
Et donc, c'est très important. Prions les uns pour les autres, et lorsque nous voyons un défaut, alors soyons sobres et aussi humbles, parce que, pas croire que, bien sûr, je vais voir les défauts des autres, probablement plus vite que je vais accepter les miens, mais si je vois un défaut chez quelqu'un, bien, je peux prier pour cette personne, pour l'aider, pour demander au Seigneur de l'aider. Et alors, ben, nous serons alors de bons dispensateur de la grâce variée de Dieu.
En parlant de, justement de prier pour un autre, pour un besoin que l'on voit chez un autre, ben on en revient aussi à Jean 13, hein, quand le Seigneur donne l'exemple de d'enlever ses vêtements, de se mettre à genoux, de prendre un bassin, de mettre de l'eau et de laver les pieds. Et il dit, faites la même chose, les uns envers les autres. Et c'est vrai que c'est sans doute un exercice qui aujourd'hui n'est plus tellement pratiqué. Qui est-ce qui prend encore la parole et qui va trouver son frère, qui se met en position inférieure devant lui et qui parle peut-être d'un sujet pour amener cette âme à comprendre la grâce de Dieu envers lui et alors ça résout beaucoup de problèmes. Mais le pratique-t-on encore beaucoup aujourd'hui?
Et pourtant, le Seigneur dit, vous êtes bien heureux si vous le faites.
Oui, mais le problème, c'est, on peut le faire d'une manière plutôt hautaine, je suis au-dessus, et là, déjà, il faut se mettre comme le Seigneur. Et deuxièmement, ça demande beaucoup de délicatesse, ça demande beaucoup d'amour. Et troisièmement, il y a peut-être la peur aussi. Comment la personne va réagir? Et à cause de cela, on ne le fait pas. Mais effectivement, moi, je pense qu'on ne le fait pas assez. Et ça, je pense que ça, si on le faisait plus vite ou si on le faisait carrément, ça éviterait parfois des ennuis qui viendraient après et qui là peuvent toucher toute l'assemblée. Mais ça demande beaucoup d'humilité.
Ça demande de l'humilité et puis beaucoup de sincérité et d'intégrité. Parce que d'abord, il faut appliquer la parole à soi-même. Mmh. Et ensuite, c'est facile de trouver des prétextes pour ne pas le faire. Mmh. Même des prétextes qui ont l'air légitimes.
Parce que dans ce cadre-là, je t'interromps, dans ce cadre-là, ce ne sont pas des choses très grandes. C'est le lavage des pieds, donc c'est la souillure. C'est le contact avec toutes les choses qui nous entourent. Et on peut dire, tiens, tu te laisses un peu influencer par ceci, ou bien tu parles de telle façon. Et voilà, il n'y a pas de faute, je vais dire. Il n'y a pas de faute commise l'un envers l'autre. C'est tout à fait indépendant de ce cadre-là. Et voilà, c'est un exercice d'un don de grâce. Maintenant, peut-être... Le Seigneur ne dit pas que personne ne peut le faire, d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui est possible pour chacun l'un envers l'autre.
Dans ce passage de Jean 13, j'aimerais lire le verset 7. Jésus répondit, donc le passage du lavage des pieds. C'est pas le verset 7. Verset 5. Puis il, le Seigneur Jésus, verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Juste détail, c'est la parole, donc c'est l'eau, on pourrait dire, c'est la parole de Dieu que nous apportons aux pieds de notre frère, de notre sœur. Et ensuite, il faut essuyer pour que le travail soit terminé. Pas juste lancer des versets. Il faut essuyer, il faut prendre soin. Et ce qui est très joli, c'est que essuyer avec quoi? Pas avec mes propres pensées, pas avec le linge dont moi je suis saint, que moi j'utilise, ma référence à moi, mes pensées à moi, ma sensibilité à moi. Non, avec le linge qui saint le Seigneur Jésus lui-même. Donc, s'en référer au Seigneur, en disant, voilà, c'est ça les pensées profondes du Seigneur. Et c'est avec ça qu'on doit se sécher, s'essuyer les pieds les uns avec les uns des autres. En faisant ça, nous serons de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Alors c'est quoi, je vous pose la question, c'est quoi un dispensateur? C'est quand même pas un mot qu'on utilise tous les jours.
Il y a déjà une note, je crois, dans nos Bibles qui nous dit administrateur. Ailleurs, administrateur.
Ouais.
Mais bon, en fait, c'est un verset évidemment qu'on connaît depuis très longtemps, mais ici, en préparant un peu le sujet, ça m'a tout d'un coup fait un rapport avec un peu mon travail. Je travaille dans un milieu médical, sans être moi-même médecin et tout ça. Mais voilà, chez nous, on parle beaucoup de dispensateurs de soins. Et c'est tout d'un coup que voilà, ce mot m'est venu, dispensateur de soins. Et en fait, dispensateur de soins, donc de soins médicaux, ben ça explique très fort ce que veut dire un dispensateur. C'est quoi les dispensateurs de soins? Ce sont les médecins, ce sont les kinés, ce sont les dentistes, les pharmaciens, tout ça, ce sont tous des dispensateurs de soins. Et là, pour illustrer notre exemple, que chacun a un don de grâce, mais voilà, il y a le médecin généraliste, quelqu'un qui s'occupe un peu de la personne, toutes les différentes pathologies. C'est un ami de la famille, c'est quelqu'un en qui on a confiance, qu'on peut lui confier certaines choses. À côté de ça, il y a les différents spécialistes. Il y a les spécialistes pour le cœur, pour les reins, pour les yeux. Et on voit donc l'importance de cette variété qu'on voit, cette variété dispensateur de soins. Donc c'est fournir les soins qu'on a besoin à un endroit du corps qui ne va pas bien. Et ou pas forcément qui ne va pas bien, on va pas toujours chez le médecin parce qu'on a un problème, on va aussi chez le médecin pour un contrôle, pour voir ce qui ne va pas bien. Et en fait, c'est ça m'a aidé pour encore mieux comprendre ce mot dispensateur. Mais voilà, c'est fournir tous les soins que les autres ont besoin dans l'assemblée et même en dehors. Alors je pensais, voilà, un cardiologue, problème de cœur. Ah ouais, il y a des personnes qui, leur amour pour le Seigneur s'est refroidi. Mais voilà, on peut faire quelque chose. On va chez l'oculiste, chez l'opticien, enfin, il a des problèmes d'yeux. Mais on peut faire quelque chose là aussi. Si quelqu'un, il n'a plus son œil simple. Voilà, on peut prendre tous les exemples, quoi. Et ça montre que, voilà, chacun a reçu un don. Chacun est comme un médecin ou un infirmier et voilà, peut l'utiliser, doit même l'utiliser dans le corps, mais pas que, puisque c'est aussi envers les non-croyants, quoi.
Et il y a l'aspect préventif.
Il y a l'aspect préventif, ouais.
Très, très
les important. Contrôles que tu fais chez le médecin, tout ça. Ouais.
Il y a aussi le sens dans le dispensateur, on l'utilise parfois pour dispenser, donc c'est donner aussi. C'est quelque chose que c'est un don aussi de soi. Ça reprend un peu cette pensée du Seigneur qui s'est donné entièrement. Il s'est donné lui-même. Et il continue ce service même maintenant. Il a accompli son œuvre. Il est dans le ciel, mais il continue à être aussi ce dispensateur lui-même, ce parfait dispensateur.
Et puis j'ai imaginé aussi, en fonction de l'âge, ben d'abord, voilà, il y a le gynécologue. On va déjà, on va avant la naissance, on va déjà chez le gynécologue. Et puis après, il y a un infirmier accoucheur. Puis on a besoin d'un pédiatre, puis le médecin de famille, puis d'un gérontologue. Ce sont tous des aspects différents, des médecins différents. Et voilà, on peut chacun, Dieu peut nous donner un don pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les personnes plus âgées aussi. Et voilà, le tout, c'est de trouver qu'est-ce que Dieu nous donne. Et puis, on peut changer, on peut commencer sa carrière de chrétien en s'occupant des enfants, la terminer avec des personnes âgées, par exemple. Là aussi, c'est Dieu qui nous le montre. Mais toujours aussi en fonction de l'amour qu'il y a dans notre cœur.
Si on revient à l'exemple de Pierre, sur la rive, en Jean 21, le Seigneur lui dit, « Pierre, m'aimes-tu ? » Il dit, « Oui, Seigneur. Paie mes agneaux. M'aimes-tu ? » C'est la base. Hein? Mm-hmm. C'est le motif, la motivation du service pour le Seigneur, et pour les agneaux, pour les brebis, pour paître les agneaux, les brebis, et pour garder les brebis, c'est l'amour pour le Seigneur. Et on voit là, Pierre, il est donc qualifié par le Seigneur pour s'occuper des petits, des agneaux, les paître, leur donner la nourriture, et ensuite, puisque tu m'aimes, tu vas aussi paître les brebis. Et puis c'est vrai qu'un service peut, si on est fidèle dans les petites choses, eh bien le Seigneur alors peut nous confier des tâches grandissante, graduellement. Mais l'amour ne doit pas diminuer. Au contraire, l'amour doit toujours augmenter. C'est ça un bon dispensateur. C'est quelqu'un qui s'applique dans son travail. Un dispensateur, c'est quelqu'un qui enfin, dans le contexte biblique, c'est quelqu'un qui prend de ce qui est au Seigneur pour le transmettre. Donc, je ne suis pas propriétaire de ce que je donne, puisque ça me vient du Seigneur. Je ne peux pas donner ou transmettre quelque chose que je n'ai pas reçu du Seigneur. Si c'est quelque chose qui vient de moi, ça ne va pas être utile à l'accroissement du corps. Et donc, c'est pour transmettre comme un canal, comme de bons canaux de distribution, on pourrait dire, de la grâce variée de Dieu. Et un bon canal, c'est un canal qui n'est pas bouché, j'ai envie de dire. Bouché par quoi ? Par toutes sortes de choses charnelles. Si en moi, il y a beaucoup d'éléments charnels, eh bien, la grâce de Dieu va passer beaucoup moins facilement, voire pas du tout, que si je me dépouille du vieil homme, eh bien, la grâce de Dieu, alors, peut passer du Seigneur vers les autres.
Ouais, ce que tu dis me fait penser au début de la seconde épître aux Corinthiens, où il nous a parlé donc du Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console à l'égard de toute notre affliction, afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous-mêmes nous sommes consolés la part de Dieu. Là encore, si maintenant je ne me laisse pas consoler par Dieu, comment est-ce que je peux être un consolateur pour les autres? Mais si j'ai vraiment joui de cette consolation que Dieu m'a montré, eh bien, je pourrais beaucoup plus facilement montrer, aider quelqu'un qui a besoin de cette consolation-là. Et comme tu dis, c'est faire passer ce que Dieu m'a montré, le continuer à le faire passer à d'autres.
Ce qui est magnifique dans le travail de Dieu, c'est que, par exemple, il m'enrichit au travers d'une expérience, par l'Esprit, il m'enrichit de lui, et en le donnant aux autres, en le transmettant aux autres, je ne m'appauvris pas.
Ouais.
Je m'enrichis de nouveau.
Au contraire.
C'est quelque chose de magnifique, c'est le travail de Dieu, c'est le travail de l'Esprit. Et les bons dispensateurs, eh bien, sont des personnes, des frères, des sœurs, des jeunes, moins jeunes, qui simplement ont de la joie et sont rafraîchis lorsqu'ils parlent du Seigneur aux autres. Et c'est vrai que si je n'ai pas la joie de la relation avec le Seigneur, comment alors est-ce que je vais pouvoir la transmettre?
Combien de fois ça n'arrive pas, tous ceux qui vont visiter des personnes âgées le disent, sont allées visiter une personne âgée, elles en sont ressorties encore plus encouragées elles-mêmes, quoi.
Je pensais dans, justement, ce commencement du service simple, je pensais à Josué, que l'on voit en aide toute simple à Moïse, et puis 40 ans plus tard, presque, c'est l'Éternel qui dit, mais voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui a la capacité de faire rentrer le peuple dans le pays de Canaan, et qui va devenir, qui va recevoir le bâton de commandement, qui va prendre la place de Moïse. On voit que Josué, tout au long de cet apprentissage, n'a jamais rien revendiqué. Il était tout simplement au service de Moïse, et de l'Éternel par la même occasion.
Oui, on a parlé donc de bons dispensateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais dispensateur? Ben, je vais juste prendre un exemple, mais il y en a tout plein. Voilà, il y a des frères qui sont doués pour présenter la parole, mais on peut présenter la parole s'il ne s'ensuit pas de l'édification, et plutôt au contraire des difficultés, il n'a pas été un bon administrateur, la grâce de Dieu. Et voilà, nous devons faire attention aussi dans ce que nous... Et parce qu'on prend l'habitude, oui, j'ai l'habitude de parler, on ne fait plus attention... Déjà, on ne fait plus attention que c'est un don de grâce, que nous devons utiliser pour les autres, mais toujours pour l'édification, pour exhorter. Si le résultat, après une réunion où j'ai parlé, si le résultat après, c'est le découragement, je n'ai pas été un bon administrateur, la grâce de Dieu. Et nous devons donc faire très attention à ça aussi, quoi.
Faire attention, en effet, parce qu'un dispensateur, administrateur, on pourrait dire gestionnaire, manager, n'est pas propriétaire. Donc cette connaissance que nous avons reçue par grâce, par l'Esprit qui nous a été donné, des choses de Dieu, nous n'en sommes pas propriétaires. Et la seule responsabilité que nous avons, c'est de la transférer, de la transmettre pour le bien des autres. Et peut-être que parfois, on a l'impression de faire étalage de sa propre connaissance des choses de Dieu. Et ça, c'est pas un bon dispensateur dans ce cas-là. Ce qui est très important, c'est de parler au cœur de la part du Seigneur et que ceux qui entendent ce que tu dis, c'est pas toi qui le vois. C'est le Seigneur. Il voit Dieu au travers de ce que tu dis. Et toi, peu importe qui tu es. C'est ça, c'est un bon dispensateur. Et c'est ça l'état d'esprit du serviteur qui dit « Nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous devions faire, nous l'avons fait. » Et la récompense pour nous, si nous sommes de bons dispensateurs, elle n'est pas ici, elle sera dans le ciel. Nous n'avons pas de gloire à rechercher ici. La gloire, c'est pour le Seigneur. Nous avons les privilèges d'être comme des canaux de distribution de la grâce variée de Dieu. Il n'y a pas de plus beau job que celui-là dans ce monde, d'être un canal de distribution de la grâce variée de Dieu. Elle est variée, hein? C'est-à-dire elle touche tous les domaines de la vie, tous les domaines. Il n'y a rien dans la vie d'un homme sur la terre qui ne peut pas être enrobé de la grâce de Dieu. Rien. Elle répond à tous les aspects de la vie éternelle, mais aussi la vie sur la terre. D'ailleurs, dans la seconde épître de Pierre, il nous est dit que nous avons, chapitre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par laquelle il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous participiez à la nature divine. » Participer à la nature divine, c'est par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Tout nous a été donné. La grâce variée de Dieu.
Et ça se voit aussi d'ailleurs dans ces trois références qu'on a déjà citées. Donc Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, où il y a des listes qui sont données, parfois assez longues, dans d'autres endroits plus courtes. Et quand on prend la peine de lire ça attentivement, on voit qu'il n'y a pas d'ordre d'importance. Quand il est parlé de ceux qui sont à la tête, c'est pas par là qu'on commence. Ça fait partie de la liste des dons et du travail qu'on en a à réaliser. Donc il y a déjà cet aspect-là, quand on montre que justement cela ne nous appartient pas. Et tous ces dons semblent avoir la même valeur, même si en la lisant, on dit bah, « oui, ça c'est peut-être pas grand-chose ». Mais pour Dieu et pour le Seigneur Jésus, ça a la même importance. Et ensuite, dans cette grâce variée, ben, on voit justement 1 Corinthiens 12, les opérations... En Romains 12 aussi, et en Éphésiens 4 aussi, on voit des listes qui sont données. Et voilà, il y a en effet tous ces aspects différents qui sont donnés pour montrer justement tous les besoins et tous les aspects de cette grâce.
Alors, la grâce de Dieu, elle est variée, puisque rien ne lui échappe, et qu'il intervient à tous les niveaux, en grâce, au niveau individuel. Donc chacun peut connaître la grâce variée de Dieu, être l'objet de la grâce variée de Dieu, mais c'est vrai aussi pour l'Église universelle. L'épouse de Christ, elle est l'objet de la grâce variée de Dieu. C'est vrai aussi pour le rassemblement local qui peut expérimenter, goûter la grâce variée de Dieu. Et pour, je vais lire un passage dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Verset 7, l'apôtre dit aux Corinthiens, « De sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce qu'il dit à une assemblée locale. Parce que Dieu pourvoit. Dieu est le dispensateur. Mais en plus, lui, il n'est pas seulement canal. Il est l'origine de tout ce qu'il donne. Il donne tout ce qui est de lui-même.
Et voilà pourquoi aussi personne ne peut dire « moi, j'ai pas un don ». Justement, la grâce variée de Dieu, elle est tellement immense que Dieu veut utiliser chacun. Il a façon de parler, besoin, où il veut utiliser chacun avec les dons qu'il a donnés. Et c'est ça la grâce variée de Dieu. Et là, on voit aussi des chrétiens qui aiment le Seigneur, mais qui, à un moment donné, quittent l'assemblée, ne vont plus nulle part. Ce n'est pas normal, puisque nous avons ce service à rendre, nous avons vu les uns envers les autres. Et combien c'est important, justement, d'utiliser cette grâce vers les autres. Si nous restons seuls en tant que chrétiens, comment pouvons-nous le faire?
La grâce est variée parce que Dieu est varié. Regardons la création. Et Dieu a créé une multitude de toutes sortes. Prenons les fleurs. Il y a une multitude de fleurs, de couleurs, de parfums différents, des formes différentes, qui ont leur floraison à des moments différents. Voilà avec quel Dieu nous avons affaire. Alors, il ne faudrait pas que nous soyons formatés dans l'assemblée. Il y a l'esprit, il y a diversité des dons, mais il n'y a pas formatage du don ou formatage de l'esprit. Nous sommes tous dotés, équipés du même Saint-Esprit, mais c'est un esprit de diversité, de complémentarité. Et on n'est pas, si on n'a pas d'idée, personne ne peut dire, moi je n'ai pas de don. Non, Dieu dit, tu as un don. Il faut le croire, il faut l'accepter. Mais après, il faut accepter de le mettre en pratique. Peut-être que je n'ai pas envie de le savoir ou de le faire. Mais bon. Disons, j'ai envie, alors je veux savoir mon don, mais je demande à Dieu. Et puis, il ne faut pas chercher tout de suite les grandes choses. Commençons par les petites choses. Et puis, si je n'ai pas d'idée, je ne dois pas copier quelqu'un d'autre. Il n'est pas nécessaire de copier un vieux frère. Soyons clairs. Je suis jeune, je commence à mon niveau. Ce qui est rafraîchissant pour les autres frères et sœurs, c'est de voir le travail de Dieu dans ce jeune frère ou dans cette jeune sœur, de voir comment Dieu travaille dans son cœur. Et ce jeune frère, cette jeune sœur, il nous est donné à nous pour que nous voyons le travail du Seigneur au travers de cette personne, même jeune. Et ça nous fait du bien, ça nous édifie. Mais il n'y a pas besoin de jouer un rôle en copiant le service d'un autre, même avec les meilleures intentions du monde. L'Esprit a la liberté de nous utiliser.
Et puis, en cours de route, il y a des choses qui peuvent se modifier.
Bien sûr.
Il y a des choses que nous apprenons, il y a des choses qu'il nous montre, et puis en fonction des événements, des circonstances aussi, il peut nous dire, ben voilà, maintenant toi, va dans cette circonstance-là et apporte du bien, ou comme dit, fais du bien. Voilà, ce don de grâce, pour qu'on soit clair, c'est faire du bien à nos frères et sœurs dans la foi, poussés par l'Esprit.
Ouais. Et il faut que chacun, nous soyons ouverts pour accepter quelle vocation il reçoit du Seigneur. Et si elle n'est pas la même que la mienne, je ne suis pas la référence. Ce serait dommage de dire, voilà, nous reconnaissons X, sans donner de nom précis, mais façon, non, si c'est juste selon la parole, c'est pas en défaut avec la parole, ça peut être simplement une autre façon que l'Esprit utilise une personne pour la gloire du Seigneur. Et ce n'est pas parce que nous n'avons jamais vu que c'était comme ça, ou que moi je n'ai jamais fait, ou que ce n'est pas d'application parmi nous, voyons simplement si c'est conforme à la parole de Dieu, alors acceptons que c'est le travail de l'Esprit.
C'est ce fameux argument. On n'a jamais vu, on n'a jamais fait comme ça. Voilà. Et la période dans laquelle on se trouve est une manifestation vraiment merveilleuse que Dieu nous donne de dire, ben, il y a des choses qu'il a fallu changer.
Ouais. Et pour ça, il ne faut pas simplement les changer, il faut se laisser diriger par l'Esprit pour que l'Esprit mette les personnes en place pour un changement qui soit pour l'édification du corps. Le temps passe. Est-ce que nous pouvons passer un peu au Seigneur Jésus? Ici, nous sommes encouragés à être bons dispensateurs ou à travailler comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Est-ce que nous pourrions penser un peu, non pas à un bon dispensateur, mais au parfait dispensateur de la grâce de Dieu dans la personne du Seigneur Jésus comme homme sur la terre?
Il a déjà dit de lui, il allait de lieu en lieu faisant du bien.
Je cherche après ce passage, donc c'est acte 10. Ouais. Et donc on voit à partir du verset 38, Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, celui qui a passé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui.
C'est magnifique. Ah, oui. C'est magnifique. En Marc 10, verset 45, il est dit car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ça, c'est le parfait, le suprême dispensateur de la grâce de Dieu. En plus, non seulement lui, il est canal, mais il est aussi l'origine de la grâce. Donc, il a une dimension suprême, supérieure, excellente.
Puis, ce serait un autre sujet, on pourrait encore partir pour une heure au moins. La grâce est des fois mise en opposition à la justice ou à la sainteté de Dieu. Et là aussi, on peut des fois aller trop d'un côté ou de l'autre. Puisqu'on parle du Seigneur Jésus, quel exemple avec la femme prise en adultère qu'on amène au Seigneur. Les pharisiens disent, d'après la loi, elle doit être lapidée. Ils avaient tout à fait raison. Mais la réponse du Seigneur est une réponse de grâce. Voilà. Et nous, parfois, nous passons à côté de cette grâce au nom de la sainteté, au nom de la justice de Dieu. Et il faut toujours penser cette grâce de Dieu. Sans cette grâce, nous ne serions pas ce que nous sommes. Et donc, si nous sommes grâce, si grâce à cette grâce, nous sommes ainsi, eh bien, nous devons la manifester aussi aux autres et aussi aux non-croyants pour les amener à Christ.
Et le Seigneur a montré justement cette grâce variée de Dieu parce que chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un dans une situation tout à fait différente, de maladie, d'infirmité, d'origine, il ne fait pas de différence entre un juif et un samaritain. Il va même vers cet étranger du peuple. Et on peut multiplier tous les exemples de guérison qu'il a opéré, et de manière différente, comment il a agi sur le cœur de chacun, pour l'amener à lui.
Et il est parfait dispensateur dans sa vie d'homme, de la grâce variée de Dieu. La grâce, elle est variée parce que elle est à tous les niveaux. Le Seigneur n'a rien retenu. Il a tout donné de la part de Dieu. Et il n'a rien oublié. Nous, en tant que dispensateurs, nous pouvons oublier ou ne pas voir des besoins. Le Seigneur a vu tous les besoins. Il n'a oublié aucun d'entre eux. Il n'a rien négligé pour notre bien spirituel. Aussi, il répond à tous les besoins des siens au travers des évangiles. Bien sûr, il répond aux besoins des âmes en général, mais si on prend plus particulier, aux besoins des siens, de ses disciples. Non seulement il répondait à leurs besoins, mais il anticipait leurs besoins. Toujours. Avec beaucoup de soin. Et sa grâce, elle est variée parce que, par exemple, dans un épisode, il guérit la belle-mère de Pierre. Il guérit les maux physiques. Ou bien, il délivre les âmes de l'emprise de l'ennemi. Voilà des formes variées de sa grâce. Il enseignait les choses de Dieu. Alors, il enseignait gratuitement. Et il enseignait de manière compréhensible. De manière à être compris. C'est la grâce de Dieu de recevoir un enseignement divin de manière avec des paraboles, par exemple, des choses qu'un enfant peut même comprendre.
Et le peuple s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.
Et ça, c'est magnifique. Il les enseigne en chemin, il enseigne les foules, et voilà sa grâce variée. Le plus important, c'est que les gens comprennent les choses spirituelles, mais sa grâce variée l'amène aussi à dire aux disciples, nourrissez-les. Et il apporte la nourriture pour les foules. Il les fait asseoir dans l'herbe. La grâce variée, c'est aussi le Seigneur Jésus qui marche vers une femme samaritaine en plein midi, qui marche sur l'eau vers ses disciples en pleine nuit, parce qu'ils en ont besoin, elle à ce moment-là, eux à ce moment-là. Quel que soit le jour, l'heure, le lieu, la grâce variée de Dieu dans le Seigneur intervient et se présente là, et il prend soin des siens. On a dit tout à l'heure, il a rendu la belle-mère de Pierre à sa maison. Et puis sur la croix, alors qu'il donne sa vie en sacrifice par la grâce absolue de Dieu, il prend encore soin. Voilà la grâce variée de Dieu. Il dit à Jean, voilà ta mère, voilà ton fils. La grâce variée va jusque-là, jusqu'à prendre soin dans ces moments de crucifixion des autres. Alors, on pourra en parler longtemps, la grâce variée de Dieu, mais voilà tous des exemples que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Et nous sommes appelés à suivre le modèle de notre Seigneur.
Juste lire quelques versets. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. » De Timothée 2. Et alors, comme cela a déjà été, « Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu qui mène vers de l'amertume. » Combien nous avons à veiller, c'est un travail qui demande de l'effort. Veiller autour de nous, dans l'assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque de la grâce de Dieu? Et puis, Paul et Barnabas, dans Acte 13, verset 43, qui leur parlait, les exhortait à persévérer dans la grâce de Dieu. Parce qu'on peut aussi en déchoir, on peut aussi quitter cette grâce de Dieu, ne plus réaliser cela. Et donc, persévérer dans cette grâce. Et puis, 2 Pierre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. » Justement, le Seigneur Jésus qui a manifesté cette grâce. Et puis, il y a ces deux versets qui sont adressés à Timothée, mais que Dieu pourrait nous adresser à nous aussi. « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. »